un SMS. Confirme la dernière info qu'il attendait. S'affiche sur son écran un nom, un seul. Celui qui précipita 149 personnes vers un voyage sans retour. S'éclaircissant la voix, le proc lâche la bombe, sans plus de fioritures. Il s'agit du copilote de l'appareil, Andreas Lubitz. La chronologie des événements va bientôt permettre de lever les dernières parts d'ombre de toute cette affaire. Mais encore faut-il que l'opinion soit prête à entendre l'innommable vérité. 4 mars 2015, Barcelone, 8h30. Porte B, terminal 2. Les 144 passagers du vol 4U9525 à destination de Düsseldorf sont autorisés à embarquer. Le ciel est dégagé, un grand soleil trône au-dessus de l'Espagne. Le personnel de bord qui les accueille, souriant, n'en est pas moins efficace. Les voyageurs sont dispatchés vite et bien. Germanwings est la compagnie low cost rattachée à Lufthansa. Elle propose de fait des vols à prix attractif, au confort plus ou moins rudimentaire, le tout avec un timing serré. Dans le cockpit de l'appareil, deux jeunes hommes attendent impatiemment la fin de l'embarquement. Ils accusent déjà plus de 20 minutes de retard sur leur planning de vol. Patrick Sondenheimer, 34 ans, a plus de 6000 heures de vol à son actif. Il sourit à son copilote, un gaillard de 27 ans, du nom d'Andreas Lubitz. Ce dernier passe en revue les dernières vérifications d'usage et tente, tant bien que mal, de prendre son mal en patience. Dans les travées, l'ambiance est au beau fixe, d'autant que 16 étudiants de Rhénanie, très heureux de rentrer chez eux, se chamaillent dans un brouhaha qui peine à être contenu. 9h, sur la piste 7, sans encombre, l'Airbus A320 décolle et se retrouve à voguer paisiblement entre les nuages. Dans quelques dizaines de minutes, il sera en Allemagne. Les passagers, heureux, contemplent le ciel et les quelques cumulus épars qui leur font face. Les pilotes, eux, se sentent parfaitement à l'aise. Les conditions météo sont idéales. Rien à craindre. L'avion survole le vieux port de Marseille. La tour de contrôle, qui vient de leur envoyer le flot normal d'instructions, reçoit une réponse positive de la part du commandant de bord. Sondenheimer éteint la radio. Il ne pourra plus jamais la rallumer. Le pilote, quelques minutes plus tard, est pris d'une envie pressante. Le retard accumulé à Barcelone l'a empêché d'aller aux toilettes. D'une boutade, il annonce à son collègue qu'il doit aller vidanger. Bon, je te laisse la gestion du vol. Pas de bêtises pendant mon absence. Le trentenaire sort du cockpit, cherche à ouvrir la porte des toilettes située juste à côté du poste de pilotage. L'accès est clos. Les sanitaires sont en panne. Sondenheimer va devoir faire le chemin jusqu'à la queue de l'Airbus afin de pouvoir se soulager. En sifflotant, il parcourt les allées, salue de la tête les passagers. Il offre à qui veut bien en profiter un grand sourire. Ah, il aime son métier. Et plus encore, il aime les gens. 9h32, sur le panneau de commande, l'altitude de l'appareil vient de changer. De 11 600 mètres, sa valeur de croisière bascule au minimum, 30 mètres. Dans le même temps, les réacteurs de l'appareil sont employés afin d'augmenter sa vitesse. En quelques secondes, cette dernière passe de 500 à 570 km par heure. Pour autant, personne ne se rend compte de rien. 9h33, deux phénomènes, au même moment, vont faire grimper d'un cran l'inquiétude. En premier lieu, le contrôleur aérien Dex, qui se rend compte d'une manœuvre étrange, tente d'entrer pour la première fois et en vain en contact avec l'appareil. Deuxièmement, le commandant de bord ressort des toilettes, retraverse les travées et se rend compte rapidement que quelque chose n'est pas normal. Il presse le pas, se retrouve devant la porte du cockpit fermée. Lorsque cette dernière est verrouillée, il faut taper un code d'accès sur un pavé numérique afin de pénétrer dans le poste de commandement. Une mesure de sécurité permettant une sûreté optimale en cas d'attaque de pirates de l'air. Le commandant de bord connaît la combinaison par cœur. Machinalement, Sondenheimer introduit les chiffres dans le bon ordre et pousse la porte. L'imposante ouverture reste fermée. Oh, qui sait ? Il s'est peut-être trompé. Alors une nouvelle fois, le pilote tape le code d'accès, en se concentrant cette fois. Il n'obtient pas un meilleur résultat, porte close. Sous ses pieds, le pilote sent que l'appareil est en train de bouger bizarrement. Il appelle un steward, lui demande si quelqu'un est entré dans le cockpit. Réponse négative. Le franc de Sondenheimer tombe alors. C'est son copilote, Andreas Lubitz, qui vient de s'enfermer dans la cabine. 9h35, le pilote, de toutes ses forces, à la vue de tous les passagers de l'avion, se met à hurler et à frapper contre le blindage. « Andreas, déconne pas! Ouvre cette foutue porte !» L'avion, lui, descend en flèche. Il perd chaque minute plus de 1000 mètres. La catastrophe se dessine. La porte d'accès vers le cockpit n'a toujours pas été ouverte. Le pilote, armé d'un extincteur fourni par un des membres de l'équipage, s'emploie à frapper l'accès avec la force du désespoir. Derrière lui, les 144 passagers sont maintenant dans une panique absolument terrible. Les suppliques de Sondenheimer sont couvertes par les cris et les hurlements des innocents qui osent à peine imaginer ce qui peut les attendre. Bientôt, une alarme vive et effrayante retentit dans les travées. L'avertisseur de proximité du sol. Lubitz les emmène dans l'ombre. 9h41, tout le monde est mort. L'A320 s'écrase à plus de 700 km par heure, à flanc de montagne, pulvérisé par la vitesse de l'impact. Bilan 150 morts, 149 victimes, un coupable. 5 membres de l'équipage et 144 passagers trouvent la mort, brisés par l'acte d'un homme, Andreas Lubitz. Dans l'avion se trouvaient 2 nourrissons et 16 étudiants. Une question après le terrible récit des événements demeure. Si sa culpabilité semble certaine, quelles ont été les motivations du copilote? Comment définir sa responsabilité? La bande de la boîte noire témoigne d'une réalité glaçante. L'homme jamais ne répond à son collègue. On ne perçoit qu'une respiration calme et décidée tout au long de la descente. À la suite des différentes révélations, l'enquête va avancer très vite. Le domicile du copilote est perquisitionné par la police allemande. Les résultats sont accablants. On se rend compte que Lubitz était depuis déjà longtemps sous antidépresseurs et qu'il souffrait de troubles mentaux. Il a même été placé sous arrêt de travail sur une période couvrant tout le mois de mars. Arrêt qu'il n'a pas respecté, conduisant au drame. Dans ses historiques de recherche internet, montre que le jeune homme cherchait à se suicider. L'autre boîte noire, découverte a posteriori, montre des données de vol bizarres concernant le trajet aller vers Barcelone. Se trouvant déjà seul dans la cabine, Lubitz a plusieurs fois joué avec l'altitude de l'appareil avant de remettre les manettes en place au retour du commandant de bord. Alors pas de doute, il a prémédité son coup. Mais et la porte alors? Comment a-t-elle pu se retrouver bloquée alors même que le pilote s'est acharné à taper le bon code pour entrer dans le cockpit? Là encore, le copilote s'est entraîné à verrouiller l'accès de l'intérieur. Il existe une procédure qui le permet. Après les attentats du 11 septembre 2001, Airbus s'est doté d'un verrouillage électronique renforcé. Le but? Permettre au pilote de se sécuriser en cas d'attaque. Une porte blindée dépend d'un système d'ouverture programmable autour de 3 modes. En premier lieu, le norme permet une ouverture via un interphone et un code. Le Unlock, lui, fonctionne grâce à l'identification du personnel de cabine avec le code. Et puis, il y a le mode Lock, celui qui offre la possibilité au pilote de s'enfermer totalement de l'intérieur pendant une durée de 5 minutes. Le problème, c'est que ce délai est renouvelable même si la bonne combinaison est tapée de l'extérieur. C'est ce qui a permis à Lubitz d'agir. Les investigations suivent leur cours au sujet du copilote. Le jeune homme s'est destiné assez tôt à une carrière dans l'aviation, intégrant l'académie de Lufthansa à l'été 2008. C'est à cette période qu'il fait une première dépression majeure qui le laisse sur le carreau pendant près d'un an. Le diagnostic tombe, il est paranoïaque. Il obtient pourtant sa certification en 2010. Il devient d'abord steward, puis copilote à partir de 2014. Sa santé mentale, de l'aveu de ses proches, semble se maintenir correctement, jusqu'à peu de temps avant le drame. Durant un de ses séjours sur la terre ferme, il est victime d'un accident qui lui provoque des dommages au niveau de la rétine. Pour celles et ceux qui cherchent à voler, une perte même partielle de la vue est toujours un peu problématique. Lubitz ne dit rien, de peur d'être déclaré inapte. Il se rend chez de multiples spécialistes en Allemagne. Bientôt, il ne dort plus. Le stress devient incontrôlable. Ses troubles, en conséquence, viennent à se matérialiser de plus belle. En l'espace de 3 mois, près d'une vingtaine de médecins vont le recevoir l'un après l'autre. Lubitz ne ressort jamais soulagé de ses consultations. Pourquoi ces spécialistes n'ont-ils pas alerté les médecins de la compagnie ? Ils sont pourtant chargés de valider les aptitudes de leur personnel de bord et des dénonciations de médecins extérieurs sont possibles. Mais les équipes n'ont fait remonter aucune info. En cause, le secret médical. La plupart des toubibs que le copilote rencontre lui prescrivent des arrêts de travail. Mais le jeune homme berne les médecins contrôle de la compagnie aérienne et continue de travailler. L'engrenage semble impossible à arrêter. Ses proches, eux aussi, disent aux enquêteurs qu'ils n'ont rien perçu chez lui. Et si Lubitz avait voulu non pas se suicider, mais provoquer une tuerie de masse? Certains le pensent. Et les enregistrements de la boîte noire tendent à montrer chez lui un calme bien difficile à analyser. Vous imaginez, vous, respirer tranquillement aux commandes d'un Airbus lancé à 700 km/h contre un massif montagneux? Ça semble difficile à imaginer, hein, faut bien se l'avouer. Le débat donc demeure au sujet des réelles motivations de Lubitz. Suicide ou volonté de commettre une tuerie? La vérité sur sa personnalité, complexe à démêler, risque bien de rester un mystère. La tragédie permet de mettre en avant le problème de la santé mentale de certains pilotes et copilotes, bien souvent harassés par leur travail. Les conclusions du BEA français en 2016 vont dans ce sens. Des mesures seront prises après le drame. D'une part, des tests de dépistage sont depuis lors menés bien plus souvent auprès du personnel de bord. Drogue, alcool, médicaments, tout y passe. Ensuite, les tests psychologiques pour les pilotes et copilotes sont devenus bien plus fréquents et plus poussés. Enfin, 2 personnes doivent se trouver constamment dans le cockpit. Le pilote s'en va, un personnel de bord le remplace immédiatement. Lufthansa n'est d'ailleurs pas la seule compagnie concernée. La mesure devient européenne en 2018. En France, une instruction a été ouverte afin de déterminer la responsabilité de Germanwings dans le crash. La compagnie connaissait-elle, au moins en partie, l'état psychologique de Lubitz? En mars 2022, l'enquête s'est terminée par un non-lieu complet ajoutant à la douleur des familles de victimes. Les mieux placés pour parler de cette horreur aujourd'hui sont les témoins de la catastrophe, les quelques habitants du petit village du Vernet, le regard happé par le bruit tonitruant de l'avion descendant à pic reste marqué par cette épreuve. C'est notamment le cas de Gilles Tézan, qui s'est rendu lors des 10 ans du crash sur place avec un journaliste de la Provence. Voici ses impressions. Cela reste impensable qu'un avion ait pu venir s'écraser ici, surtout quand on connaît les circonstances. Là, c'est de la folie de la part de la personne qui a fait ça. Moi, je pense toujours aux familles. Perdre un enfant, c'est quelque chose. Je pense que l'on ne peut jamais s'en remettre. Ouais, comment lui donner tort ? Aujourd'hui, le massif des Trois Évêchés est un lieu de recueillement, celui de 149 malheureuses victimes qui s'attendaient à un voyage paisible. Un monument dans les montagnes est venu remplacer la multitude de débris laissés par le crash. On peut de tout temps y voir des fleurs et des offrandes déposées à proximité. Elles sont laissées par les proches et les familles des disparus, fauchés lors de cette innommable catastrophe aérienne, l'une des plus terribles.